est 7 heures. Le journal de 7 heures, César Yao.
Bonjour à tous, les grandes articulations de ce mardi 7 heures. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est attendu ce mardi 7 mai à Abidjan pour une rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara. C'est le quatrième pays visité par le nouveau chef de l'État depuis son élection le 24 mars dernier. Journée portes ouvertes à l'OMS Côte d'Ivoire précisément. Docteur Fatim Tall, la chef de bureau, a saisi cette occasion pour réitérer l'appel de l'institution à promouvoir la santé par l'activité physique pour faire de la santé pour tous une réalité vivante. Dans l'actualité internationale, République démocratique du Congo, condamnation en chaîne après le bombardement d'un camp de déplacés près de Goma. A aussi Potin passera en revue les titres des journaux ivoiriens du jour. Et puis en fin d'édition, l'invité de la rédaction, Junior Cardin, recevra Irie Bizamblé Jean-Marie, secrétaire général du RPP Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage. Cette formation politique envisage de mettre en place une coalition de partis politiques afin de discuter avec le gouvernement dans le cadre de l'amélioration du climat électoral en Côte d'Ivoire. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, doit arriver en fin de matinée à Abidjan pour une audience avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara, suivi d'un point presse, une visite de travail et d'amitié. Selon l'agenda du président ivoirien, il y aura un entretien dans la mi-journée à midi ce mardi avec son homologue sénégalais au palais présidentiel d'Abidjan. Les deux hommes d'État ne se sont pas encore rencontré car c'est le vice-président Thiémoko Meilié Koné qui a représenté la Côte d'Ivoire à l'investiture de Bassirou Diomaye Faye le 2 avril dernier. Cette fois-ci, le président ivoirien va rencontrer Bassirou Diomaye Faye qui a promis une politique de rupture avec le retrait du franc CFA et une nouvelle approche plus équitable des relations internationales. C'est le quatrième pays visité par Bassirou Diomaye Faye après ses voisins frontaliers comme la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau, uniquement des pays de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire accueille les libéraux du monde entier pour plusieurs activités tout au long de l'année 2024. Le lancement officiel de cet événement a eu lieu hier lundi à Abidjan, Cocody. Et bien, ce congrès de la Fédération internationale des jeunesses libérales a pour thème le monde que nous voulons. Les détails avec Jean-Claude Mabéa.
Le président du Centre d'études prospectives, par ailleurs président du comité d'organisation de cet événement, a présenté le projet Abidjan, capitale mondiale des libéraux 2024, avant de lister les différentes activités prévues pour cette année. Le ministre Sidi Thiémoko Touré.
Nous voici aujourd'hui au lancement de ce projet Côte d'Ivoire, capitale mondiale des libéraux 2024. Cette distinction confirme le rôle de la Côte d'Ivoire comme un leader des valeurs libérales en Afrique et sur la scène mondiale. Ainsi, au cours de l'année 2024, la Côte d'Ivoire va accueillir plusieurs événements. Je citerai l'atelier de formation des jeunes libéraux africain qui commence aujourd'hui. Le congrès mondial de la Fédération des jeunesses libérales et radicales, 9 au 11 mai 2024. L'Assemblée générale du réseau libéral africain au mois de septembre 2024.
S'adressant aux jeunes libéraux, la ministre d'État, représentant le président du directoire du RHDP, a sonné la mobilisation contre le populisme qui gagne du terrain sur le continent. Anne-Désirée Ouloto, présidente du comité scientifique.
Chers jeunes leaders africains, je reste convaincu qu'en renforçant vos capacités sur les principes de la démocratie libérale, vous constituerez pour les libéraux une force dynamique de lutte démocratique contre ceux qui cherchent à diviser et à affaiblir notre continent. L'heure est donc à la mobilisation générale.
Cette journée a donc pris fin par la leçon inaugurale prononcée par le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Epiphane Zoro Ballo.
Direction l'intérieur du pays, 178 stagiaires, dont 28 filles et 150 garçons de l'école nationale des sous-officiers d'active de Boaké, issus de 9 pays, ont reçu leurs épaulettes de sergent. Cette 33e promotion, baptisée du nom du sergent-chef Kwasi Ouattara Youssouf, tombée au champ d'honneur dans le cadre de l'opération MINUSMA au Mali. La cérémonie de remise des épaulettes a eu lieu le week-end dernier à Boaké. On en parle avec Joseph Fassalé, notre correspondant régional dans le Bekè.
Pendant leur formation, les 178 stagiaires de la 33e promotion de l'ENSOA, École nationale des sous-officiers d'actifs de Boaké, ont été instruits sur des modules spécifiques en vue de répondre aux défis sécuritaires du moment. Colonel Gouéjean Hilaire, commandant de cette école militaire.
Recentrer la formation des élèves sur le cœur de métier, à savoir la tactique et l'action inter-armes. Cette option nous vaut de passer d'une formation de 18 mois à 15 mois. Cette approche relève de la mise en contexte des objectifs de formation avec les changements de paradigme sécuritaire en cours dans notre sous-région et au-delà.
Puis il a prodigué des conseils aux élèves promus.
Souvenez-vous toujours de cette inscription au fronton de votre école. S'instruire pour ne pas subir, car vous avez été instruit pour triompher de l'adversité face à l'ennemi.
Quant au ministre d'État, ministre de la Défense, il a confié l'avenir de ces jeunes militaires à leurs parents. Tene Birema Ouattara.
Chers parents, c'est l'occasion pour nous de vous dire que dès aujourd'hui, les enfants qui vous appartenaient entièrement font désormais partie de la grande famille de la Défense. Je vous demande de les soutenir et de les accompagner toujours dans vos prières. Aidez-les à être des hommes responsables, ambitieux et humbles.
Un défilé militaire a mis fin au cérémonial de remise d'épaulettes. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Non loin de là, précisément à Korogo, dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre le terrorisme dans le nord de la Côte d'Ivoire, dénommé SecuNord 2, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'association Koginta dans la région du Kyologa. 15 gendarmes ont bénéficié d'une formation de haute intensité. Ils ont alors reçu vendredi dernier leurs attestations de fin de stage. En ligne de Korogo, la correspondance de Tommy Corona.
Les démonstrations que vous allez avoir, 4 thèmes. Le premier thème, c'est un contrôle. Après, nous aurons une interception d'un véhicule avec un individu dangereux à bord, un point de passage qui est susceptible d'être piégé, une arrestation domiciliaire.
La cérémonie a débuté par des exercices sur la houlette de Ronan Kouat, expert formateur international pour le compte de Koginta. Puis, place a été faite à Ibrahim Adem, chef du projet, pour en dire quelques mots.
C'est la 5e activité que nous clôturons aujourd'hui. Il y a d'autres qui vont venir, mais nous prévoyons également des infrastructures, notamment au niveau de Ferke et au niveau de Wangolo. Les équipements également de mobilité sont prévus, véhicules, motos, des équipements de protection individuelle, des équipements de radio, les mobiliers, les équipements informatiques.
Des démonstrations et propos qui, semble-t-il, ont rencontré l'assentiment du commandant de la 4e région de gendarmerie de Korogo, le colonel-major Aïdara Ibrahim.
La finalisation d'une étape d'un changement global qui a débuté depuis décembre 2023. Je voudrais déjà remercier Koginta. Avec votre initiative, vous renforcez nos capacités de formation du personnel pour faire face à la donne sécuritaire. Votre appui en matière de formation nous aide à avoir le plus rapidement possible du personnel performant pour pouvoir satisfaire les populations au niveau sécuritaire.
Faut-il rappeler que cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre le terrorisme dans le nord de la Côte d'Ivoire, dénommé SecuNord 2, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'association Koginta dans la région du Tchologo. Tommy Corona, Korogo, Radio de la Paix.
Journée portes ouvertes à l'OMS, parlons-en. Le ministre de la Santé, Pierre Ngoudemba, a présidé vendredi dernier au siège du bureau de l'Organisation mondiale de la santé Côte d'Ivoire la cérémonie officielle marquant la fin des activités de la célébration des 75 ans de l'institution. Il a été aussi question de la célébration de la Journée mondiale de la santé 2024. Docteur Fatim Tall, la chef du bureau de l'OMS. Côte d'Ivoire.
Au terme de cette exaltante année qui a vu la célébration des 75 ans de notre organisation, nous vous devons reconnaissance et gratitude pour votre engagement à nos côtés. Nous sommes heureux de poursuivre la route avec vous pour le bien-être des populations ivoiriennes. Je voudrais réitérer l'appel de l'OMS à promouvoir la santé par l'activité physique. Nos modes de vie deviennent de plus en plus sédentaires du fait du recours aux transports motorisés et de l'utilisation accrue des écrans dans le cadre du travail, de l'éducation et des loisirs. Et c'est pourquoi nous voulons saisir l'occasion de cet événement pour Walk the Talk, c'est-à-dire joindre l'acte à la parole, en bougeant et en faisant bouger autour de nous, pour faire de la santé pour tous une réalité vivante. Cette journée va marquer officiellement la clôture de la commémoration des 75 ans de l'OMS en Côte d'Ivoire et dans le monde.
Voilà, c'était Dr Fatim Tall, chef de bureau de l'Organisation mondiale de la santé Côte d'Ivoire. Page culture de ce journal, la 8e édition du Djegele Festival, tribune de promotion et de célébration du Balafon, s'est refermé samedi dernier au stade municipal de Bondialé. Une semaine durant, des artistes, musicologues et autres acteurs culturels se sont retrouvés pour des panels et des spectacles autour de cet instrument inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Depuis 2012, de retour de Bondialé sur ce 8e Djegele Festival avec Didier Blé.
Sur la scène de ce samedi 4 mai, un Eba solo du Mali de haut vol et un Djegele qui semble avoir atteint sa vitesse de croisière, Kone Dodo, directeur du festival.
Je crois qu'il faut retenir essentiellement la progression, améliorer ce qu'on a, de façon à ce que ce soit une industrie culturelle, créative et rentable.
Un festival comme le Djegele est un fort outil de développement local, Abdramane Kamate, directeur général du MASA.
Au-delà d'être une activité artistique, c'est bel et bien une activité de développement local. Ces jeunes-là, pendant ce temps, sont de cette façon instruits, ils sont de cette façon occupés sainement. Sur le festival, la culture devient dans cette région-là un outil de rayonnement national et international.
Ce modèle de promotion du Balafon est inspirant. Georges Diata, directeur du centre culturel de Tabakunda au Sénégal.
Quand je vois véritablement un festival qui promeut un instrument tel que le Balafon, cela m'inspire. Nos instruments traditionnels, s'ils ne participent pas, n'est-ce pas, à l'éclosion de nos artistes, peuvent devoir participer à l'échange culturel entre peuples. Inspirant parce que c'est un festival qui a lieu à 700 km de la capitale.
Rappelons également que sur scène ont brillé des artistes Molobali Keïta du Mali, Salif de Sobara de Burkina Faso, Jaël Boni et Oswald Kwame de la Côte d'Ivoire.
Dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, 4 jours après le bombardement d'un camp de déplacés près de la ville de Goma, qui ont fait plus d'une quinzaine de morts, dont des enfants, les condamnations continuent. Dans un communiqué publié hier lundi, 6 mai, le gouvernement congolais condamne le bombardement du camp de déplacés des Mugunga et appelle à des sanctions contre le Rwanda. Pour Kinshasa, ces bombardements non seulement violent le droit international humanitaire, mais traduisent le refus du Rwanda d'obtempérer aux injonctions de la communauté internationale de cesser le feu et de retirer ses troupes de la RD Congo. L'Union européenne et la SADC ont toutes deux condamné ces bombardements, l'Union européenne dénonçant du coup l'avancée sur le terrain du M23 et ses alliés. L'Union africaine a pour sa part condamné ces attaques sans nommer leurs auteurs. Sans transition, à présent, la revue des titres des journaux ivoiriens avec Aoussi Potin. Bonjour Potin.
Bonjour César, nous allons rester dans la même veine que vous. En nouveau, en votre journal, vous avez peut-être bien sûr, n'est-ce pas, fait allusion à cette visite officielle, pour ne pas dire une visite de travail, voilà.
C'est exact.
Ce mardi 2 mai, du tout nouveau président sénégalais, n'est-ce pas, Bassirou Diomaye Faye. Les journaux, pour certains, sont revenus donc en l'étude de une sur cette visite officielle. Commençons par Fraternité Matin, qui titre « Visite de travail ». Diomaye Faye à Abidjan aujourd'hui. Quand l'Inter met l'accent dans son titre de une sur les raisons de la visite du nouveau président sénégalais en terre ivoirienne, coopération Sénégal-Côte d'Ivoire, Bassirou Faye, Bassirou Faye à Abidjan aujourd'hui, les raisons de la visite. Abidjan, capitale mondiale du libéralisme en 2024, c'est parti. Affiche comme titre de une dans sa parution de ce jour le Patriote, allusion faite au top départ officiel hier de cette grand-messe des libéraux en terre ivoirienne. Sur le même sujet, Le Matin titre aussi à sa une, mettant en avant un extrait de propos de la ministre Anne Oulotto qui représentait donc le président Kone Kafana. Et nous citons, le RHDP séduit grâce au leadership du président Ouattara. Alors César, on va dire quoi, une séduction qui semble hein, ne pas avoir touché la corde sensible de son confrère Le Nouveau Réveil, hein, qui lui, au lieu de parler de séduction, eh bien, met l'accent sur le fait qu'il y a hausse des prix, des factures, multiples nominations. Les Ivoiriens souffrent, le RHDP insensible. Un angle aussi que choisit dans sa parution de ce jour le quotidien d'Abidjan, qui pointe du doigt l'augmentation des tarifs de l'électricité. Un autre coup de marteau du régime au peuple, avec comme sous-titre une donc réduction, du moins une augmentation qui indique l'insensibilité du RHDP, souligne donc ce quotidien. Parlons aussi, en dehors de ces sujets d'ordre politique, parlons donc de la FESI, donc ce syndicat étudiantin. Le rassemblement dans sa parution de ce jour tire sur la sonnette d'alarme avec son titre « Ça grogne fort contre le leader de la FESI ». Terminons César avec malheureusement une note triste hein, avec ce drame du côté d'Abobo. C'est Soir Info qui revient dans son titre de une. Soir Info donc qui titre « Abobo ». Recherché après des travaux de vidange, un enfant de 5 ans retrouvé mort dans une fosse septique. C'est vraiment dommage.
Voilà, vraiment dommage. La revue des titres des journaux ivoiriens du jour avec Aoussi Potin. Potin, vous serez de retour à 8h, non, pour le même exercice.
Exactement.
À présent, l'invité de la rédaction, Junior Cardin, reçoit aujourd'hui Irié Bizamblé Jean-Marie, secrétaire général du RPP, Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, dans le cadre de l'amélioration du climat électoral en Côte d'Ivoire. Eh bien, cette formation politique envisage de mettre en place une coalition de partis politiques afin de discuter avec le gouvernement. Entretien.
Monsieur le secrétaire général, bonjour.
Bonjour.
Le RPP, Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, dans le cadre de l'amélioration du climat électoral, envisage une coalition de partis politiques pour discuter avec le gouvernement. Et comment va se traduire cette coalition?
D'accord, je vous remercie pour cette question. D'abord, il faut retenir, c'est que le RPP est fondé par Laurent Denis Logo, aujourd'hui présidé par le professeur Timoko Doumbia, est un parti politique à une profession de foi, hein, c'est de conquérir le pouvoir d'État par la voie des urnes et une élection, voire une élection démocratique. Et donc, pour ce faire, le RPP milite pour que les conditions du suffrage soient véritablement saines et équitables, justes et transparentes. C'est dans ce cadre que, pour les élections 2025, nous sommes organisés pour militer en faveur d'une coalition, pour discuter avec le gouvernement, pour créer toutes ces conditions-là.
Et les démarches sont déjà engagées?
Nous avons déjà pris des attaches hein, avec des partis politiques de l'opposition dans un premier temps. Nous avons pris contact avec l'URD de Bonaparte Kagari, le PIT de AKSD, l'IRD de Kaye. Eric, nous avons échangé avec le MGC de Mme Simone Eve Wabo pour lui présenter notre projet. Nous avons échangé avec Pascal Afinguessa, président du FPI, pour échanger sur la question. Nous comptons rencontrer le président Laurent Gbagbo et tous les partis politiques notamment seront contactés dans le cadre de cette plateforme-là.
Et les partis politiques que vous avez déjà rencontrés, quelle est leur réaction face à votre initiative?
Non, il faut dire dans un premier temps, l'initiative est saluée par l'ensemble des acteurs que je viens de citer. Nous sommes déjà bien avancés sur ce projet et avec elle, nous faisons toute cette tournée-là dans le but de pouvoir gagner toute la confiance de l'opposition dans un premier temps pour se mettre ensemble pour poser ces conditions-là. Nous attendons maintenant la réponse du président Laurent Gbagbo qui va certainement nous recevoir après leur investiture le 10 mai.
Et le gouvernement est-il déjà informé des démarches que vous engagez pour pouvoir le rencontrer?
Oui, c'est une démarche que nous allons mener vis-à-vis du gouvernement. Dans un premier temps, il fallait faudrait que nous mettions d'abord les balises et maintenant nous allons véritablement informer le gouvernement parce que le gouvernement c'est la dernière clé pour que tout ce dispositif-là se réalise véritablement. Donc nous allons échanger avec le gouvernement. Comme déjà dans le cadre du dialogue politique, je pense que les partis politiques se rencontrent, nous allons échanger le gouvernement pour que ce cadre-là puisse être réactivé, pour que nous puissions faire nos propositions, pour que ces élections de 2021 soient véritablement justes, équitables et transparentes.
Vous avez donc décidé d'initier cette activité, c'est dans le cadre de l'amélioration du climat électoral. Hein. Qu'est-ce qu'il en est alors?
Un peu de temps, ce que nous voulons proposer d'abord, nous avons notre chemin directeur sur le découpage électoral, sur le cadre même de l'organisation des élections, le cadre électoral, le code électoral, voilà, et puis sur même la constitution, sur les lois qui nous organisent tous dans cette république-là. Et donc, voilà les questions que nous voulons aborder. La cartographie électorale, effectivement, il faut que cela soit véritablement amélioré, et puis il faut que la liste électorale soit consensuelle. Voilà, rencontre l'adhésion de tous les partis politiques qui vont concourir à ce suffrage universel. Voici les éléments que nous allons aborder et faire des propositions dans ce sens.
Et quand on sait que souvent les partis politiques ivoiriens ont des points de vue divergents face à un certain nombre de problèmes, votre démarche ne serait-elle pas difficile à réaliser comme projet?
Non, les partis politiques n'ont pas de contradiction véritable sur ces sujets-là. Parce que chacun de nous veut que le climat électoral, l'environnement électoral soit paisible. Parce qu'on vient de loin, la Côte d'Ivoire vient de loin depuis 2011. Avec les crises à répétition, il ne faudrait pas que ce soit une malédiction. Et les Ivoiriens, véritablement, sont en train de gagner en maturité. On n'a pas de contradiction véritablement profonde. Tout ce que nous voulons, je pense que l'essentiel peut nous réunir pour qu'on parte à des élections véritablement justes et transparentes. Et ça, pour le faire, c'est au bénéfice de tous les partis politiques qui veulent concourir au suffrage universel. Voilà, qui veulent avoir l'adhésion des populations pour gérer le pouvoir d'État. C'est ça une élection. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on arrive toujours à des tiraillements après des élections et puis compter des morts. Je pense qu'on vient de loin quand même. Et sur ce coup, je pense que 2025 peut être notamment la clé pour s'en sortir.
Au-delà des partis politiques, monsieur le secrétaire général, quel est votre message à l'endroit de la population ivoirienne dans le cadre toujours de l'amélioration du climat électoral?
C'est d'inviter la population ivoirienne à prendre la pleine mesure des enjeux électoraux de 2025. Quand je dis prendre la pleine mesure, c'est d'avoir été responsable et c'est de pouvoir participer massivement à ces élections qui vont s'ouvrir. Mais tout est-il que les leaders politiques doivent évidemment éduquer leurs militants afin que ces populations-là puissent s'approprier les élections. C'est en s'appropriant les élections en Côte d'Ivoire que évidemment on peut éviter les tiraillements ici et là. Il faut poser les problèmes sainement et avancer.
Irie Bi Zamblé Jean-Marie, secrétaire général du RPP, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Voilà, Junior Cardin recevait Irie Bi Zamblé Jean-Marie, secrétaire général du RPP, Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui met un terme à cette édition. Tout de suite, le rappel des principaux titres à la une de l'actualité. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est attendu ce mardi à Abidjan pour une rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara. C'est le quatrième pays visité par le nouveau chef de l'État depuis son élection le 24 mars dernier. Journée portes ouvertes à l'OMS Côte d'Ivoire. Docteur Fatim Tall, la chef de bureau, a saisi cette occasion pour réitérer l'appel de l'institution à promouvoir la santé par l'activité physique pour faire de la santé pour tous une réalité vivante. Dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, condamnation en chaîne après le bombardement d'un camp de déplacés près de Goma. Fin de ce mardi 7h, retour à l'actualité 8h.